Et je faisais remarquer que ces quatre dessins, n'est-ce pas, peuvent être identifiés entre eux. On peut dire que c'est le même objet, c'est le même nœud, grâce au mouvement de Rademeister. Alors, les mouvements de Rademeister, voyez, c'est les mouvements de Rademeister, c'est le fait que une boucle peut se défaire. Alors ici, vous avez ce type de croisement très spécifique à l'écriture, à cette écriture, qui n'est pas une simple représentation. Le fil ici passe au-dessus de l'autre élément de ficelle. Ça s'appelle le mouvement B1. On peut faire ou défaire des boucles. On peut faire ou défaire des mailles non alternées, comme ceci. Vous voyez, vous avez un fil qui passe deux fois en dessous d'un autre élément de fil. Eh bien, vous pouvez les faire glisser de telle manière qu'ils se séparent et que les croisements qui sont ici disparaissent, comme le croisement qui était là disparaît. C'est pour ça que B boucle pour boucle est indexé par 1 et M pour maille est indexé par 2. Et puis il y a un troisième mouvement qui est différent des deux précédents, que j'appelle T3, qui est le mouvement où un triskel non alterné se transforme en un autre triskel non alterné par le mouvement d'un des trois éléments de ficelle par rapport au croisement des deux autres. Vous voyez, je peux l'analyser en disant que, par exemple, ce fil qui passe ici au-dessus des deux autres éléments de ficelle, qui sont là et là, ce fil-là, il passe au-dessus des deux autres éléments de ficelle, eh bien, il va glisser et passer au-dessus du croisement et il va pouvoir se disposer de la même manière, en étant au-dessus des fils, il va être en dessous du croisement. Vous voyez, il passe de cette partie-là à celle-ci. Bon. C'est le T3. Et là, vous avez quelque chose de nodal, déjà, qui est tout à fait caractéristique à partir de ce 3, c'est que vous avez trois descriptions concurrentes de ce même mouvement. Vous pouvez dire, comme je viens de le dire, que ce brin de ficelle, là, qui est horizontal, passe au-dessus du croisement. De la même manière, vous pouvez dire que celui qui passe deux fois en dessous, ici, il passe en dessous du croisement des deux autres pour venir se placer de l'autre côté. Vous pouvez le constater sur le dessin, ici. Voyez-vous ? Ce brin de ficelle qui passe deux fois en dessous, c'est le brin de ficelle qui passe deux fois en dessous qui est passé de l'autre côté du croisement par en dessous, en glissant. Si on le laisse glisser sur la table ou sur la feuille de papier sur lequel vous aurez posé comme ça de la ficelle ou n'importe quel autre élément matériel. Bon. Et vous voyez qu'on peut aussi lire d'une troisième manière, mais plus compliquée, ce même mouvement, c'est que ce fil qui est là, qui passe au-dessus et en dessous, il est capable, du fait de la disposition de ce croisement, de passer au travers du croisement. Vous voyez ? Il peut passer au-dessus de celui-ci et en dessous de celui-ci et traverser par son biais le croisement des deux autres et se placer de l'autre côté du croisement. Au lieu d'être ici, il passe de l'autre côté. Bon. Ça, c'est nœud. Alors, ça, c'est une métaphore propre. Ça, c'est pas un abus de métaphore. Comme nous discutons avec Forge et Yann Biener les vendredis, et ça, j'espère que je vais écrire quelque chose là-dessus qui devrait paraître dans S1, dans un prochain numéro de S1, pour montrer en quoi Lacan était troublé par, à la fin de son enseignement dans la topologie et le temps, par cette question du lien qu'il y a entre le nœud borroméen et ce qu'il veut métaphoriser justement de la structure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de rapport parce qu'il y a équivalence des trois bras. La seule difficulté, c'est que Lacan, voyez-vous, cherche à nous montrer le nœud en prenant un exemple de nœud. Et l'exemple de nœud est bien connu. Voyez-vous, c'est le nœud borroméen. Bon. C'est un nœud qui est un cas particulier, qui est un exemple de nœud. Et justement, il a vu dans les dessins de souris qu'il y avait d'autres nœuds qui étaient aussi borroméens, mais qui n'avaient pas exactement cette propriété de rendre les ronds identiques, équivalents les uns aux autres. Bon. Et c'est ce qui va jeter le trouble dans son discours. Et moi, je lui disais, justement, que non, pas du tout. Il avait tort de se laisser intimider par ce qu'on lui racontait. Qu'il avait déjà très bien dit, dès encore, des choses sur lesquelles j'insistais, Et finalement, il m'a donné raison. Et d'ailleurs, Souris, lui aussi, a compris. C'est pour ça qu'il a écrit une lettre à Lacan lui disant que c'était de sa faute s'il avait trompé. Si j'avais su que Souris, ça allait frapper autant, j'aurais bien sûr parlé de ça avec Souris avant. Bon. Mais contre l'avis de ses amis, de Thomé, Léger, Terrasson, j'avais une position dont j'ai discuté après avec Souris, et nous avons fait de grands progrès en parlant de ces questions, de manière à bien essayer de bien apprécier ce que Lacan voulait nous montrer, voulait nous indiquer. Bon. Ça donne lieu à une petite trouvaille que Lacan a nommée « nœud borroméen généralisé ». Et nous parlerons de ça à la fin mai, parce que les vendredis de la lettre lacanienne font ça, un vendredi de la fin mai, exceptionnellement au mois de mai, à cause d'un congé, d'un week-end prolongé au début de mai. Et là, je serai de retour, et puis nous ferons ça aussi le deuxième vendredi de juin. Bon. Donc voilà les mouvements de l'Armeister. Et ces mouvements permettent de dire, avec en plus un mouvement zéro, c'est-à-dire que si vous déplacez un fil qui est comme ça, si vous le déplacez ce fil et que vous le mettez comme ça, ça c'est des mouvements, ça c'est, on va appeler ça le mouvement zéro. On va l'appeler N0. Il n'y a pas de croisement. Bon. Mais ça c'est un mouvement qui est un mouvement prévu par la topologie. Et d'ailleurs c'est un mouvement plus de ce type que de ces trois types, qui permet de passer de d'un des quelconques des quatre dessins du début de encore, du symptôme, du début, qui permet de passer d'une présentation à une autre de ce nœud qui s'appelle, dont Lacan va parler dans la leçon 7, et qu'il va proposer d'appeler dans la leçon 7 le nœud de Lacan. Vous voyez? Il le compare au nœud de Listing, et donc c'est la première chose que j'ai fait remarquer quand j'ai parlé de ce nœud, à propos du séminaire. Un érudit qui voudrait étudier d'une manière strictement philologique et classique, ce qui est déjà très bien, hein. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Barbara Cassin, donc vous voyez que c'est très bien, on peut très bien de toute façon dire aussi que ce nœud est présent dans la thèse de Listing. Et ce qui est amusant, c'est que dans la thèse de Listing, vous avez ces quatre présentations. Donc on pourrait dire que Lacan a produit ce nœud dans ces quatre présentations dont il ne dit rien, parce que c'est une référence à la thèse historique de Listing, qui est le premier texte scientifique, hein, c'est 1845, la thèse d'habilitation de Listing, c'est la première fois qu'on ait fait une étude de nœuds dans un écrit scientifique, puisque auparavant, on disposait de quelques éléments chez Descartes qui évoquent la dentelière, et puis il y avait le cahier de nœuds de Gauss. Gauss s'était fabriqué un cahier avec des dessins de nœuds, c'est une chose que je vous conseille d'ailleurs. Faites-vous un cahier et puis dessinez dedans, collectionnez les nœuds. Vous verrez bien ce que ça donne. Moi, j'ai un cahier que j'ai commencé dans les années 70 et ça m'a donné l'occasion d'interroger les nœuds en écrivant des questions, des remarques autour des nœuds que je collectionnais pour essayer petit à petit de répondre à ces questions et de découvrir de nouvelles questions plus intéressantes. Voyez-vous ? Donc, Listing, après Gauss, c'est le premier à avoir publié sur les nœuds, et il y a ces quatre dessins dans la thèse de Listing. Bon. La thèse de Listing, c'est aussi le premier texte historique connu où le mot topologie apparaît. Hein? Cette topologie qu'on appelait jusqu'à la fin du 19e analysis situs, puisque c'est le terme que Leibniz avait choisi pour nommer cette discipline dont Kant connaît l'existence, puisque dans le texte préalable à l'esthétique transcendantale, Kant, c'est un texte qui est publié chez Vrin dans les écrits pré-critiques, et où Kant dira plus tard que c'est là qu'il a conçu son esthétique transcendantale, qu'on trouve dans la critique, n'est-ce pas, de la raison pure. Eh bien, ce texte s'appelle chez Kant « Du fondement des différentes parties de l'espace ». Hein, c'est publié dans un petit livre de trois essais pré-critiques, les deux autres sont d'ailleurs aussi très intéressants. Il y en a un sur la syllogistique d'Aristote qui est très bien, qui est très instructif. Je vous conseille ce petit livre, il vient d'être publié, ça vaut 12 pesos, enfin 12 pesos européens, 12 euros. Et donc, vous voyez que Leibniz, Kant dit de lui au début de son article, il dit qu'il a inventé une discipline qui s'appelle analysis situs. bien. Et alors, est-ce que c'est pas une de ces idées qu'ont les grands hommes qui ont un esprit comme ça, très, très, très intelligent, très brillant, est-ce que ces grands penseurs n'ont pas comme ça de temps en temps des lubies, des idées qui leur viennent comme ça en pensant, et puis que finalement leur esprit n'a pas la force de donner suite à ces propositions, à ces inventions. Donc, quand il a l'air de douter de la possibilité, c'est un peu comme aujourd'hui encore, voyez-vous, puisque Marx, par exemple, n'avait aucune idée ni de la laïcité ni de la topologie, c'est pour ça qu'il a utilisé l'économétrie pour nous faire rentrer dans une mathématique et une rigueur dans la science politique, et c'est une des faiblesses du marxisme. Comme dit Georges Bataille, vous savez, Bataille dit du capital, il dit que c'est une chose très intéressante, le capital, à lire, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment on prend plusieurs mètres de flanelle, le prix de la flanelle au mètre, et puis le nombre d'heures qu'il faut pour fabriquer un pantalon, et savoir le prix de l'heure de travail curier qui fera le pantalon, et que tout ça c'est très intéressant, mais nous ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand le type qui porte le pantalon enlève le pantalon. Ce qui veut dire que, vous voyez, il y a l'idée comme ça que le capitalisme, comme le dit Lacan en télévision, le capital, qu'est-ce que c'est? C'est la mise au rencard du sexe. Peut-être que le sexe on ne peut pas l'aborder avec un pied à coulisses. C'est ce qui faisait râler Lacan, justement, quand un mec faisait une plaisanterie au moment du séminaire de Lacan qui s'appelle La logique du fantasme, quand il a introduit, avec des suites de Fibonacci et de la division harmonique, avec la division harmonique, il a introduit l'absence de rapport sexuel. À l'époque, il disait qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Quand Lacan nous parle de la relation sexuelle, pour nous dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle, il fait un calcul sur la division harmonique. Alors, il y a quelqu'un qui prend la semaine d'intervalle après le séminaire et lui dit: ah bon, ben la prochaine fois que j'irai copier, je vais y aller avec mon pied, avec pas mon pied à police, avec ma règle à calcul. Lacan était très mécontent de cette plaisanterie. Parce qu'il pensait que justement le type avait absolument rien compris à ce que lui il voulait expliquer. C'est que c'est pas parce qu'on prend un segment et qu'on fait des rapports sur ce segment que l'on est forcément lié, c'est tout le problème du phonème. Les valeurs intrinsèques employées n'ont aucun intérêt dans l'affaire. La division harmonique, c'est une affaire de rapport, de relation, comme le phonème. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. C'est des oppositions et des relations. Et donc, on n'est pas du tout obligé d'employer une géométrie métrique. Et surtout, même, il semblerait que la géométrie métrique ou la métrique, le fait de mesurer tout ce qui est économétrie, linguistique, métrique et tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas concevoir sexe. Parce que sexe, ça ne se mesure pas. Il y a les gamins dans le cours de récréation font ça, et même les adultes dans la psychanalyse, ils se mesurent le sexe pour voir qu'il est plus grand, plus long. Mais c'est pas sexe. Et ça, c'est bêtise. On pourrait dire c'est sex shop, c'est pornographie, c'est sexologie. Mais c'est pas sexe. Sexe, ça s'écrit. Ça ne se mesure pas, ça s'écrit. Et on peut écrire rigoureusement et faire une mathématique purement écrite de choses qui n'ont rien à voir avec la mesure. Ça n'empêche pas le nombre. Hein. Le nombre s'écrit. Le chiffre, c'est l'écriture du nombre. Et le nombre, vous savez qu'il y a les nombres cardinaux et les nombres ordinaux, c'est pas la même chose. Et les mathématiciens savent reconstruire les nombres ordinaux pour pouvoir atteindre les nombres cardinaux. Alors que les enfants apprennent curieusement d'abord à employer l'usage des nombres cardinaux. Pourquoi? Parce que les nombres cardinaux se présentent d'abord comme des métaphores. C'est d'abord des gestes du langage. C'est justement, ça n'a rien à voir avec le fait de compter. C'est comme des couleurs, voyez-vous. Et c'est une affaire de lisibilité, le nombre cardinal. Alors que le nombre ordinal, lui, nécessite un processus, une procédure, un algorithme, un peu comme ça. Vous voyez, un algorithme au sens, je dirais, d'un algorithme à la Carnap. Justement, de ce que je vous propose de ne plus appeler langage formel, aussi bien même dans les théories axiomatiques comme celle de Peano, mais d'appeler écriture formelle. C'est pas du langage, c'est trop restrictif par rapport au langage. C'est de l'écriture. Et perdez l'idée, abandonnez l'idée, défaites-vous de cette idée que l'écriture de la langue parlée, la langue écrite, c'est la même langue, On peut dire que c'est la même langue si on veut dire que la langue française est une présentation écrite et une présentation parlée, mais l'écriture n'est pas un duplicat de la parole. Et c'est ce qui est trompeur, là, Derrida a très bien écrit sur le logocentrisme de l'écriture alphabétique. L'écriture alphabétique a tendance à nous induire dans cette erreur. Et qu'est-ce qui veut dire ça? C'est pas parce qu'il y a une musique, évidemment, qui aussi, il y a des sons, la pratique de l'instrument, et puis une écriture, n'est-ce pas, qui fait penser qu'il s'agit d'un duplicat de la musique. Et bien, c'est aussi quelque chose qui vous induit dans cette erreur, parce qu'il existe justement des écritures qui sont silencieuses, et la plus éminente d'entre elles, c'est les mathématiques. Bon. Donc, l'écriture n'est pas un duplicat de la parole, mais les deux, ça fait deux langues différentes qui sont la même langue. C'est ce que dit Jung, Freud, quand il parle de la libido. Il y a deux libidos, une du moi, une de l'objet, et c'est peut-être la même. Le pauvre Jung, il dit, bon, ben, si c'est la même, il n'y en a qu'une. Il n'a pas tort, remarqué, hein, beaucoup de nos contemporains, moi-même, je penserais encore comme ça, sans Lacan. Et Lacan, même, il nous a refilé la bande de Mobius pour essayer de nous faire penser ce problème d'un objet qui a deux faces distinctes nécessairement en chaque point, mais que ces deux faces, c'est la même. Donc vous voyez, la question est la suivante. À quel titre on dit que quelque chose est le même? Quelque chose est équivalent, quelque chose est identique. Deux choses différentes sont identiques. Et là, ils se sont trompés dans Listing. Ils ont appelé nœud de Listing un nœud qui n'est pas dans la thèse de Listing. Le premier nœud, là, qui est là, qui est un nœud de 4, hein. Lacan, il dit, regardez, prenez une boucle comme ça. Hein? Vous prenez une boucle faite sur un rond, vous voyez, avec B1. Et bien, si vous refermez cette boucle, cette boucle comme ça, vous la refermez de la manière suivante. Ici, ça passe au-dessus, ici, ça va passer en dessous. Vous créez un enlacement entre les deux extrémités, vous voyez, les deux extrémités de votre ficelle bouclée. Hein? Si vous venez enlacer les deux extrémités ici, en pliant, vous avez quoi ici? Vous avez ce qu'on appelle le nœud trèfle. Bon. Le nœud trèfle, habituellement, on le présente comme ça. On le présente comme ça, le nœud trèfle. Vous voyez, il se présente plutôt comme ça. Voilà. Là, ça, c'est une autre présentation du nœud trèfle. Voilà. Ça, c'est le bit intérieur. C'est pas noué, il n'y a pas de nœud. Mais on pourrait dire que c'est l'amorce du nœud dans l'enseignement de Lacan. C'est ce qu'il va utiliser comme nœud pendant 15 ans. Jusqu'au moment où il va introduire dans l'Empire le nœud borroméen. Ça, c'est un nœud, comme Lacan, il parle très joliment de ces vases. Il y avait une exposition à Paris des vases qui étaient des vases chinois. Il dit, allez voir ces vases qui sont pas encore des vases de l'invention de la poterie. Vous voyez, c'est des vases qui sont en train d'apparaître comme vases. C'est des vases très maladroits, très grossiers, qui sont même pas encore des vases. Mais ça, c'est pas encore un nœud. C'est le vide intérieur. Il va utiliser ça pour nous parler de la répétition freudienne, de ce qui nous tombe sur la langue comme une enclume quand on veut parler de choses sérieuses. Et voilà que ce huit intérieur peut se boucler en nœud trèfle, voyez-vous, et que cet objet, pour des raisons de changement de présentation, de mouvement zéro, on peut le présenter comme ça. Et voilà ce que nous dit Lacan. Il nous dit, voilà, maintenant vous faites deux boucles. Vous doublez le mouvement des boucles, voyez-vous. Ça, c'est dans la leçon 7 du symptôme. Et vous pliez ça, et vous faites un enlacement des deux extrémités. Vous allez obtenir ici quelque chose qui est comme ça, vous voyez, les deux portions, et là, vous allez obtenir un enlacement des deux extrémités, vous allez obtenir un nœud. Et bien, c'est celui-là qu'on appelle le nœud Listing. C'est celui-là qu'on appelle le nœud Listing. Et bien, c'est pas celui qui est dans la thèse de Listing. Ça, c'est le nœud Listing. Vous voyez? Bon. Donc, nœud trèfle, nœud Listing, c'est une série qui s'amorce, et si vous mettez trois boucles maintenant, hein, c'est quand même assez simple de suivre ce que dit Lacan si on n'a pas peur du grand méchant loup, si on n'a pas l'esprit complètement écrasé par tout ce que les gens ont pu raconter comme bêtises sur Lacan, et bien vous apercevrez que c'est très simple de voir que ce nœud-là, n'est-ce pas? C'est une présentation de ce que Lacan va proposer d'appeler le nœud de Lacan. Mais que ce nœud de Lacan, c'est celui qui est dans la thèse de Listing. Listing, il fait la partie des nœuds qu'il étudie dans sa thèse, c'est ce nœud-là, vous voyez. Ce nœud-là, c'est celui-ci. Vous voyez la page 111 dans cette version, la leçon du 17 février 1976. Le nœud de Listing, le nœud de Lacan. Mais c'est un joke de Lacan. Il nous dit, allez, Celui-là, pour rigoler, on va l'appeler nœud de Lacan. C'est moi qui ai souligné ça. Quand j'ai fait remarquer ça dans les années 80 aux héritiers de Lacan, ils étaient tellement affolés qu'ils ont commencé à manger du papier, à remuer tous les documents. Ils ont trouvé cette leçon, ils l'ont publiée en même temps que la préface à la thèse de Liskin. Ils étaient sidérés, ils n'en étaient pas aperçus. Que Lacan proposait d'appeler nœud de Lacan le nœud qui est dans la thèse de Liskin, parce que les mathématiciens ont appelé nœud de Liskin le nœud d'avant, qui est plus simple que le nœud de Lacan, que le nœud de Liskin, si vous voulez. Et que Lacan, il dit ça. Allez, appelons-le le nœud de Lacan comme ça pour rigoler. Hein. Il dit que c'est absolument pas sérieux. Hein. Il dit, voilà, j'ai appelé celui-là comme ça, il est loufoque, le nœud de Lacan. C'est une idée loufoque, vous voyez. C'est en effet celui qui convient le mieux. Bon, pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à regarder la thèse de Liskin. Donc on pourrait croire que ces dessins sont des dessins et des références qui sont purement érudites dans des manuscrits et des textes qui ont une importance historique pour la théorie des nœuds, pour la topologie, pour les études des mathématiques du 19e et qui se développent au 20e siècle. Et pourtant, moi je vous dis que Lacan a de bonnes raisons. La nouveauté de ce séminaire, le symptôme, que je suis en train de commenter au collège, la nouveauté de ce symptôme, ça se passe dans la leçon 3, quand Lacan nous fait changer d'économie, et le symptôme a changé de structure, la psychose paranoïaque, Lacan va nous dire, la psychose paranoïaque, c'est ça, c'est le trèfle. Ce trèfle, que j'ai dessiné d'une autre manière là-bas, il nous dit, ça c'est la psychose paranoïaque. Bon. Et que le nœud trèfle, le suivant, c'est le nœud de Liskin. Voilà le nœud de Liskin. Ça, c'est le nœud de Liskin. Ça, c'est le trèfle. Ça, c'est le nœud de Liskin. On l'appelle nœud de Liskin dans la littérature mathématique. Et le suivant, c'est le nœud de Lacan. Le suivant, c'est le nœud de Lacan, que je vais vous dessiner la tête à l'envers. Je vais le mettre dans l'autre sens, parce qu'il est très bien comme ça. Voilà, au-dessus, en dessous, ce sont des nœuds d'un seul fil et des nœuds alternés. Des nœuds parfaitement alternés. Puisque c'est un nœud ici à 3 croisements, ici à 4 croisements et ici à 5 croisements. Et ça, c'est le nœud de la croix. Bon. Et je vous propose avec les feuilles que je distribue ici, d'étudier ces nœuds propres que vous allez trouver sur la page qui s'appelle un nœud, la quatrième page que je vais distribuer. Il n'y a que des nœuds propres. Vous allez trouver le nœud trèfle dans cette présentation-là. Le nœud de Liskin, non, le nœud de Lacan dans cette présentation qui est celle-ci, celle que j'ai mise ici. Et puis vous avez le 5 trèfle. Le 5 trèfle, je vais vous dessiner ici, le 5 trèfle, on en parlera pour commencer aussi. Hein. Le 5 trèfle, c'est un trèfle, mais au lieu d'avoir seulement 3 croisements, d'être un trèfle à 3, c'est un trèfle à 5 pétales. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5. Voilà. Alors, 1, 2, 3. 4, 5. Voilà. Vous voyez ? Ce nœud, c'est un trèfle, il n'y a qu'un seul fil. Je peux parcourir le. Ça se voit déjà, c'est comme les nombres cardinaux, ça se voit déjà moins bien. Ça se lit moins bien. Il n'y a qu'un seul fil, alors que dans le trèfle, on le voit encore assez bien. Ici, vous voyez que là, je suis en train de faire un truc qui est plutôt de l'ordre du nombre ordinal, puisque j'apprends à compter les torsions successives et que j'ai besoin de repasser sur le fil pour vérifier qu'il y en a bien un seul et que ce n'est pas deux. Bon. Quand dans ces nœuds toriques, là, ces nœuds qui tournent autour d'un point, voyez-vous, celui-là, c'est celui qui a un seul croisement, celui-là, c'est celui qui en a trois et celui-là, c'est celui qui en a cinq. S'il y en a deux, s'il y en a quatre, s'il y en a six, eh bien, il y a deux fils. C'est plus un nœud, c'est une chaîne. Les nœuds toriques, c'est-à-dire les choses qui tournent autour d'un point, si vous avez un nombre pair de croisements, vous avez une chaîne de deux brins, de deux ronds. Si c'est impair, vous avez un nœud propre. Vous avez un nœud de ceux que nous allons d'abord étudier. Et les premiers qui sont faciles à atteindre, ce sont certains nœuds toriques qui sont justement de la famille des nœuds de Lacan. Donc cette page, c'est une page où vous n'avez finalement, voyez-vous, cette page où il y a des nœuds propres, la page qui est marquée un nœud ici, que je vous ai distribué, Vous avez en une, deux, trois, quatre séries qui se développent, vous avez le développement de ce qu'on nous allons appeler la famille des nœuds de Lacan. Le nœud de Lacan étant, à part le trait, qui est, disons, trop rudimentaire, primitif, comme ça, il n'est pas encore bien développé, c'est comme le 8 intérieur, voyez-vous, qui n'est même pas un nœud. Le 8 intérieur, le trèfle, ça commence, et le premier qui est caractéristique de cette série, c'est le nœud de Lacan. Et Lacan propose de l'appeler le nœud de Lacan. C'est pas pour rien. C'est pourquoi, parce qu'il a des propriétés, que je vais vous dire, qui permet de dresser cette liste et de la faire apparaître. Ça, c'est tous les nœuds de Lacan qu'on trouve dans la table de nœuds qui est celle de Tate, repris par Olsen. Donc, parmi les tables de nœuds jusqu'à 10 croisements, vous voyez ici, vous en avez 9. Tout cela ont 9 croisements. Là, il y en a 7, là, il y en a 5, et là, il y en a 3. 3, 5, 7, 9. Vous remarquerez que c'est le nombre impair. Et ça, c'est la famille des nœuds de Lacan, parmi lesquels vous trouvez les nœuds toriques. Vous trouvez le trèfle sous sa présentation comme ça, qui n'est pas torique. Le 5 trèfle sous sa présentation qui n'est pas torique, le 7 trèfle et le 9 trèfle. Bon. Donc ces nœuds, on va apprendre à les lire. Voyez-vous ? Et pour les lire, eh ben, on va les opposer, les composer, les séparer, les distinguer. On va apprendre à lire. C'est ça ce que je vous propose de faire. Et de nous apercevoir qu'on peut d'autant mieux les lire. Alors qui n'a pas eu encore ces photocopies là, des dernières idées ? Voilà. Bon. Alors, vous pouvez passer les liens. Vas-y, bien. Bon. Donc, j'ai commencé par vous parler de la page numéro 4, qui est la page où il y a un nœud. Je trouve que c'est le photocopieur qui les a enlevés comme ça, c'est indifférent. Bon, c'est vrai que dans le nœud aussi, on les a mis en mettant la page et un nœud en dernier. On est parti de la page des trois nœuds vers la page des un nœud. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me rende compte qu'il y avait une façon comme ça d'étudier les un nœud à partir des trois nœuds, des trois chaînes borroméennes, hein? Des trois chaînes borroméennes et des chaînes de Whitehead, qui sont toutes les chaînes qui n'ont pas d'enlacement. Alors, je commence à mettre des noms au tableau, hein. J'ai nommé les mouvements de Rademeister. Bon. J'efface la série des nœuds glisting aux nœuds plaquants. Vous avez noté ça, hein? Donc c'est assez simple, c'est les boucles qu'on enlace pour bloquer le nœud. Ça, ce sont des nœuds propres. Ça, c'est ce qu'explique Lacan dans le séminaire Le Symptôme, hein? Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme nœud? Bon, il y a l'enlacement. C'est pas un nœud. Il y a le double enlacement. Voyez-vous, quand c'est torique, quand ça tourne en rond, mais que c'est pair, il y a de l'enlacement. Il y a deux ronds et ils sont enlacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va avoir comme définition d'enlacement? On va dire qu'il y a enlacement quand un rond emprunte le trou d'un autre rond. Et réciproquement. Regardez, avec mes doigts, je vous fais ça, vous avez un rond, hein, vous prenez un autre rond qui passe dans le trou, et bien là, vous avez un enlacement. Et quand vous avez un rond qui emprunte le trou d'un autre rond, eh bien, le précédent emprunte aussi le trou du second, du nouveau. N'est-ce pas? C'est réciproque, c'est l'amour. C'est pour ça que Lacan fait la chaîne de la névrose. Il dit dans le séminaire Les noms du père, voyez-vous, les névrosés, c'est des gens qui ont des chaînes qui dépendent de chaînes faites, de chaînes signifiantes faites comme ça, hein, par des enlacements, où un rond emprunte le trou d'un autre rond. C'est l'alliance. C'est le papa-maman du névrosé, vous voyez. Il voudrait que papa-maman, ils restent ensemble. Vous comprenez? Aujourd'hui, on les maltraite, les pauvres petits Oedipes névrosés et pervers qu'on fabrique après Oedipe. Hein? C'est-à-dire que les papas et mamans, aujourd'hui, ils ont le divorce. Alors, l'Église n'a pas pu s'empêcher, on en parlait ici, dans l'Institut catholique, on n'a pas réussi à empêcher que les papas-mamans, ils arrêtent d'être, alors quoi, pudiques ou hypocrites? Hein? Parce que les messieurs, ils avaient toujours des dames. Eh oui, c'est pas nouveau. Mais le problème, c'est que maintenant, ils s'en vont avec la dame, ou avec les dames. Bon. Et donc, le problème, c'est que, vous voyez, le névrosé, lui, il est mieux que ça tienne dur. C'est ce que dit Lacan, il dit, prenez les sujets pendant la guerre, regardez-les dans les villes qui sont complètement bombardées. Vous avez des gens qui... Vous avez un texte de Freud, d'ailleurs, sur la guerre. Hein, avant qu'on invente le camp de concentration Auschwitz, il y avait les névrosés, eux, ils sont bien dans la guerre parce que c'est costaud. Vous leur retirez un rond, quand ils ont une chaîne olympique, je vous dessine la chaîne olympique de la névrose que Lacan utilise, c'est la plus simple après l'enlacement, le double enlacement. La chaîne olympique, c'est comme ça, c'est quand vous avez un rond qui rentre dans un autre rond, vous voyez, il rentre dedans, et là, ici, il passe au-dessus. C'est pas comme dans le nœud borroméen. Ça, c'est, celui-là, il est enlacé avec celui-ci. Et celui-ci, il rentre dedans, il passe au-dessus, donc là, il va passer en dessous. Vous voyez ? Et ces deux-là, ici, celui-là, il passe en dessous, donc là, il va passer au-dessus. Voilà. Et voilà, vous avez une chaîne. Si vous retirez un rond, les deux qui restent sont enlacés. D'accord ? Il dit ça, c'est la phobie. Une phobie, c'est quoi ? C'est se fabriquer une peur, une vie de calvaire, comme ça. On préfère ce calvaire, mais il faut que ça tienne. Et si on lui retire un rond au sujet névrosé, toute la ville est effondrée, vous voyez, ou je ne sais pas, aux pires périodes même de l'effondrement du mur de l'URSS, vous voyez, vous aviez des gens qui vont quand même, en plein hiver à Moscou, ils vont faire la queue pour acheter le pain bouffé. Hein. Vous prenez des gens qui sont dans des situations absolument catastrophiques, et bien ils continuent. Il n'y a rien de mieux que les mères de famille pour ça. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que la femme n'existe pas, parce que quand on commence à confondre la femme avec la mère, bien souvent, qu'est-ce que vous voulez, la pauvre, hein, c'est son rôle, elle doit nourrir ses enfants. Alors elle a intérêt à être névrosée, parce qu'il faut avoir du courage quand même pour aller patauger dans la boue, en plein hiver, pour aller nourrir ses larmes.